Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous et bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Ricardo Baroni, Serge Denovac et Jérôme Crapati. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, du football avec un retour sur la semaine de la Ligue des Champions, du rugby avec le tournoi Destination et du cyclisme avec la présentation de la saison 2025. Après la pub, nous commenterons les autres résultats sportifs de la semaine et enfin nous terminerons comme à l'accoutumée avec les coups de cœur de nos invités. On va commencer par le foot. Serge Denovac, on va commencer avec vous. Et cette semaine de phase retour des barrages de la Ligue des Champions, on attendait certains matchs, la confirmation du mieux du PSG depuis quelques semaines, on l'a eu. On attendait que Monaco passe aussi à Benfica, malheureusement ce n'est pas passé. On attendait de voir comment City allait réagir par rapport au Real. Bon, le Real a confirmé sa domination, on va pouvoir commenter tous ces éléments-là. On commence par le PSG rapidement.
Le PSG revient de loin, je dirais. Je pense que tout simplement, on s'attendait à une saison difficile, et a priori ce n'est pas le cas. Ils ont eu un départ laborieux au niveau de la Champions League, mais je pense qu'ils se sont bien repris. Et les résultats actuels sont plutôt encourageants.
On a vraiment le sentiment que l'équipe a enfin assimilé les desiderata de Luis Enrique en termes de plan de jeu et que tout le monde y adhère en plus. Donc on sent qu'il y a vraiment une grosse cohésion dans le groupe là.
Mais ce sont surtout de jeunes joueurs, donc ils font confiance à leur entraîneur, alors qu'avant, les stars qui y étaient avaient aussi leur mot à tirer. Et je dois dire que l'ambiance doit être beaucoup plus saine, certainement, dans les vestiaires.
Ça se ressent sur le terrain, a priori, parce qu'à chaque Exactement. Fois qu'il y a un remplacement, il y a beaucoup de turnover, finalement, au sein d'un match. Il fait à chaque fois ses 5 changements, ce qui a failli lui coûter cher ce matin, d'ailleurs. Et on sent que ça tourne toujours de la même façon.
Puis la reconduction de l'entraîneur est une preuve un petit peu de l'égibité qu'il a acquis sur le terrain et en dehors du terrain.
Et de la confiance des dirigeants. Bon, donc le PSG s'est imposé au Parc des Princes 7-0 face à Brest.
C'est dommage.
C'est un peu dommage que Brest effectivement termine sur cette on va dire mauvaise note, parce qu'il méritait tellement mieux par rapport au parcours européen exceptionnel qu'ils ont fait.
Tout à fait.
Malheureusement, c'est comme ça. Et donc le PSG rencontrera Liverpool en 8e de finale. Ça sera une autre paire de manches.
Alors, je crois que autant le football italien est en baisse, autant le football anglais me paraît toujours redoutable. Naturellement, Manchester City n'allait pas l'exemple parfait, puisque sur ce qu'il vient de se passer au Real, ils ont montré beaucoup d'insuffisance.
On y reviendra, c'est peut-être la fin d'un cycle, mais on en reparlera un petit peu plus tard.
Et puis leur buteur était sur le banc de touche. Hein. Il était assis, il n'a pas pu jouer. Donc ça explique peut-être aussi cette contre-performance.
Alors, vous l'avez dit, hein, donc le Real s'est imposé 3-1 à Bernabeu contre City et donc qualifié pour les huitièmes. On va parler de Monaco parce que c'est un peu la déception de cette semaine. Malheureusement, on rappelle que Monaco avait perdu 1-0 à domicile contre Benfica. Le match retour a tenu toutes ses promesses, a été très spectaculaire. Et malheureusement, les Monégasques n'ont pas tenu alors qu'ils menaient 3-2 à quelques minutes de la fin. Ils ont encaissé un but.
Alors, les erreurs se payent cash, surtout à ce niveau-là. Et si on regarde un peu les matchs qui se perdent dans le temps additionnel, ou les titres aussi qui se perdent dans les temps additionnels, un match n'a jamais terminé qu'au coup de sifflet final, et je crois qu'il serait trop beau. Et derrière, je dois dire qu'ils ont multiplié les erreurs. Quand on voit les erreurs sur les buts encaissés, c'est phénoménal.
3 buts, 3 erreurs. Hein. Ils ont effectivement payé cash leurs errances défensives. Ce qui fait qu'il n'y aura que 2 clubs français sur les 4 en 8e de finale, puisqu'on rappelle que Lille était qualifié directement et que Lille affrontera donc le Borussia Dortmund avec le match retour à Lille quand même, ce qui est quand même un avantage non négligeable. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette confrontation face aux finalistes de l'édition passée ?
Alors, les saisons se suivent et se ressemblent pas forcément. Hein. Dortmund a encore tout à prouver parce que c'est pas leur titre de l'an dernier qui fait face à... Ils font une nouvelle étape. Et Lille, c'est un club costaud, c'est un club solide. Il y a des valeurs dans ce club.
Avec le fameux Pep Genesio.
Oui, exactement. Et après, on verra bien. Mais comme vous l'avez souligné, le match retour à Lille me paraît très important.
Alors même s'il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, mais le fait d'avoir son public pour soi, c'est quand même... Il vaut mieux être à Lille qu'au Signal Iduna Park avec le mur jaune qui soutient son équipe. Ça, c'est à peu près sûr. On va revenir rapidement sur Manchester City. Est-ce que c'est la fin d'un cycle pour Manchester City? Ça y ressemble en tous les cas.
Alors, quand on voit la notoriété de Pep Guardiola, à l'heure actuelle, il a déjà plus de cheveux, mais ça ne va plus repousser du tout. Hein. Je veux dire que... Ça me paraît difficile. C'est même surprenant.
Je vous laisse développer.
Parce que je pense que ça a été une équipe qui nous a emballés pendant des saisons avec un buteur extraordinaire, Haaland. Hein. Et je dois dire que la machine est cassée. Et ils ont encore perdu ce week-end.
C'est ça. Ils ont perdu cette nuit contre Liverpool à l'Etihad Stadium.
Donc voilà, la question c'est de savoir si Pep va rester aussi magique qu'il a été jusqu'à présent.
Alors, est-ce que le Ballon d'Or, qui malheureusement est blessé et qui du coup régulait quand même l'entrejeu de City, le fait qu'il ne soit pas là, c'est quand même un manque important pour cette équipe. Parce qu'on sent que la transition entre la défense et l'attaque est quand même inexistante.
C'est le nombre d'erreurs défensives. Quand on voit un petit peu les buts qu'ils prennent encore... au Real, ça paraît étonnant, notamment le deuxième but de Mbappé, où ça me paraît, à ce niveau-là, ça me paraît anormal.
Bon, mais après, ils ont aussi laissé partir Kyle Walker. C'est peut-être pas la meilleure des idées, parce que c'est certainement pas le plus technique, mais c'était le chien de garde, vraiment.
Voilà. Le plus rugueux, oui.
Ouais. Bon, on suivra donc la fin de saison de City qui va s'accrocher pour rester dans les 4-5 premiers de Première Ligue et espérer être qualifié pour la Ligue des Champions.
Ben, on va dire que ça va être une année sans pour City, mais ils en tireront des conclusions parce que c'est un club sérieux.
Voilà. On va rapidement passer sur le tableau de ces huitièmes de finale. Donc le premier de ces huitièmes de finale, on l'a dit, c'est PSG-Liverpool, match retour à Anfield pour le PSG. Le deuxième, c'est Bruges-Aston Villa. C'est plutôt assez ouvert. Oui, Ricardo.
Oui, moi j'ai une question. Est-ce que le PSG contre Liverpool, il y avait le choix entre Liverpool et Barcelone. Est-ce que c'est un bon choix que ça soit Liverpool à la place de Barcelone?
Je crois que les deux étaient à mon avis, les deux étaient très très forts. Mais histoire de changer un peu, parce qu'il y a eu beaucoup de PSG-Barça ces dernières saisons, de voir un PSG-Liverpool, ça peut être pas mal. Et puis, ça va permettre d'étalonner ce PSG qu'on trouve beaucoup mieux depuis des semaines face à une équipe qui est celle qui a montré le plus de compétences depuis le début de cette Ligue des Champions, qui est en tête de la Première Ligue. Donc, pour s'étalonner, c'est pas mal.
Tout à fait.
On continue avec le Real donc, contre l'Atlético, un derby madrilène. Ensuite, on a le PSV Eindhoven contre Arsenal. Et puis, dans l'autre moitié de tableau, puisque le tableau est tiré désormais en intégralité jusqu'au bout, Benfica-Barcelone, Dortmund-Lille, on en a parlé, le Bayern contre le Bayer Leverkusen et Feyenoord contre l'Inter de Milan, qui est la seule équipe italienne rescapée de cette Ligue des Champions. Les trois autres équipes, le Milan AC, l'Atalanta Bergame, et la Juve ayant perdu cette semaine en barrage. Ricardo, vous voulez nous dire un mot sur ces trois clubs italiens éliminés en barrage?
Je vais surtout commencer par l'Atalanta de Bergame, puisque c'est mon équipe et que ça a été vraiment une grosse déception. Au match aller, il y a eu un pénalty, on va dire, un peu litigieux à la fin du match. Mais habituellement, quand ils jouent chez eux, l'Atalanta de Bergame, ils ont un sacré jeu et ils marquent des buts. Au bout de quelques minutes, on va dire, pas quelques-unes, mais quand même quelques minutes, ils perdaient déjà 3-0 chez eux. Donc, quand vous êtes chez vous et que vous perdez déjà 3-0, ça fait mal, quoi.
Et que vous avez perdu le match aller 1-0.
Oui, 2-1, non, il me semble, le match aller 2-1 avec un but de retard. Voilà. Donc, déjà, perdre 3-0. Donc, ils sont revenus à 3-1. Après, il y a eu un pénalty que Lokman a raté. Donc là, déjà... On s'est dit, ça va être vraiment difficile de se qualifier. Et je regardais le match et les supporters, les ultras commençaient déjà à sortir du stade. Et c'était un peu, je trouve, dommage. surtout qu'ils étaient partis dans l'idée que Bruges étant une petite équipe, ça allait être très simple pour eux de se qualifier. On s'est rendu compte que c'est loin d'être une petite équipe, même si au classement, au niveau de la qualification pour jouer, ils étaient dans les derniers, ben c'est loin d'être une petite équipe. Peut-être que ça va être la surprise de ce tour préliminaire. C'est un peu dommage, je trouve, pour une équipe. Donc évidemment, quand une équipe comme Saint-Père, on cherche les excuses ou les raisons, ça dépend de quel point de vue. Donc beaucoup de blessés, manque de respect de l'adversaire, penser que la chose était facile. Et donc maintenant, pour l'Atalanta de Bergame, il reste plus que le championnat, où ils sont deuxièmes actuellement au championnat italien. Et donc avant, ils avaient de grosses difficultés, l'Atalanta de Bergame, parce que jouer en Coupe d'Italie, jouer en Champions League, jouer en championnat, c'est une équipe qui n'a pas un banc vraiment conséquent. Donc dès qu'il y a des blessés, c'est un petit peu compliqué pour eux. Voilà pour ce qui concerne l'Atalanta de Bergame. Qui sait, peut-être qu'un jour, je pourrais dire, l'Atalanta de Bergame a gagné la Ligue, le championnat italien, mais j'en suis pas convaincu, puisque qui reste de qualifier reste que l'Inter, qui est en tête du championnat italien, mais juste derrière vous avez Naples, qui eux aussi n'ont rien d'autre que le championnat. Donc ça fait un championnat qui a quand même assez de suspense, puisque les écarts sont minimes, 1, 2 points, 3 points. Donc voilà pour ce qui concerne l'Atalanta de Bergame. Ce qui concerne la Juve, ben il y a eu le retour de Colomouani, le français. Ça fait vraiment plaisir à la Juve, parce qu'il a marqué de beaux buts, il a fait de beaux passes.
Il a marqué tout de suite deux doublés en arrivant.
C'est ça. Ce qui est surprenant, c'est de la façon dont il était traité au PSG. Il arrive à la Juve et il marque tout de suite. Est-ce que le fait que l'entraîneur, ça soit Thiago Motta, qui était avant au PSG, a créé une certaine ambiance et il s'est senti en confiance pour marquer des buts. Donc ça a été très bien. On a espéré au match retour avec la Juve qu'ils puissent passer. Ben non, ils ont perdu 3-1, donc c'est raté pour eux. Concernant l'AC Milan, ben il a fait une grosse erreur Maignan. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est que les Italiens se sont accrochés sur Maignan en disant que c'était sa faute. Un peu comme Donnarumma avec Benzema du temps du Real Madrid et du PSG. Je trouve que Maignan a fait quand même d'excellents arrêts pour qu'ils en soient là. Donc s'il a fait une erreur, il faut aussi en marquer plus peut-être. Ce que je regrette un peu dans le football, c'est que le gardien, c'est souvent lui la cause des défaites. Et l'équipe gagne, on ne dit pas « oui, le gardien, il a fait des super arrêts et c'est grâce à lui qu'ils ont gagné ». Non, on va parler de Mbappé qui a marqué 3 buts, par exemple, contre Manchester City, mais on ne va pas parler du gardien qui a fait des super arrêts pour en arriver là. Donc, j'aime pas trop le procès qu'on fait actuellement à Maignan au niveau de l'AC Milan, puisqu'ils envisagent même de s'en séparer.
Bon, on sait que le gardien est un poste très exposé. Merci pour cette analyse sur les clubs italiens. On va changer de ballon. On va passer au rugby avec vous, Jérôme Crapati. C'était la troisième journée du tournoi Destination. Les Bleus se sont bien rattrapés cette nuit en étriant l'Italie 73-24, avec pas moins de 11 essais. C'est le record sur ce tournoi des Destination. On a vu une bonne charnière Dupont-Ramos, qu'on attendait presque contre l'Angleterre et qu'on n'a pas eu. On a eu un doublé de Dupont, un doublé de Léo Barré. On a encore vu des belles pépites, des jeunes pépites françaises.
Oui, le challenge que Fabien Galthié avait proposé à ses joueurs, c'était de dire qu'il n'y a plus de place contre la contre-performance. C'est-à-dire qu'ils voulaient absolument laver l'affront donc, contre l'Angleterre, puisqu'ils avaient gagné contre tout d'abord le Pays de Galles et ensuite étaient frustrés par rapport à la défaite en Angleterre. Donc il avait fait des choix forts. Il avait décidé de ne pas sélectionner Damien Penaud et Mathieu Jalibert et de faire rentrer Flamand, Guillard, Atissobé et Barré. Donc quatre joueurs qui reprenaient donc contre donc l'Italie. Et on a assisté à quoi ? On a assisté à un festival offensif qui est fondé sur donc une grosse rigueur au niveau du pack d'avant, avec beaucoup d'applications, notamment dans l'animation autour des rucks, qui a permis donc de fixer les Italiens et finalement ensuite de laisser donc des espaces. Et ensuite le jeu de l'équipe de France donc s'est petit à petit mis en place et on s'est rendu compte que finalement chaque joueur s'est vraiment impliqué. Et je rappelle quand même que les Italiens ont ouvert le score avec Menoxello qui a marqué le premier. Et ensuite, la France ne s'est pas désunie et au contraire est montée en puissance et nous a proposé quand même du jeu assez complet. Fabien Galthié avait aussi fait un pari assez audacieux, c'est de dire que sur ce qu'on appelle les impact players, les finishers, il avait dit qu'il prendrait 7 joueurs de devant et un joueur derrière. Et son pari a marché puisqu'il fait rentrer à la 48e minute 6 joueurs et asphyxie des Italiens, puisque finalement, après, les Italiens étaient systématiquement en défense, même s'ils ont marqué donc 3 essais. La France a réalisé une performance de haute qualité avec 11 essais et 2 très beaux essais.
On a encore un essai pour Bielberet qui lui est d'une régularité exemplaire.
Oui.
Hein, il marque quasiment à chaque fois.
Ouais, 15 essais en 16 matchs. Voilà un ovni. Antoine Dupont qui a été capable donc de décaler les joueurs avec beaucoup de brio et d'audace. Et surtout, des joueurs. Je regardais un peu les statistiques. C'est des joueurs qui jouent devant, comme Guillard, comme Antonio, comme Mauvaka, et qui sont capables dans un match de faire 5 passes en ballon en main et qui sont capables également de réaliser 5 à 7 plaquages. Et on se rend compte que cette application, cette rigueur, eh bien, elle va payer parce qu'elle montre que ces joueurs étaient vraiment concentrés et que Galthié leur avait dit le maillot de l'équipe de France, il faut aller le chercher. Et c'est pour ça qu'il a fait une annonce très forte en disant qu'aucune place n'est gagnée et que chaque match est une histoire et qu'on raconte une histoire à chaque match. Et là, ils ont raconté l'histoire de la victoire contre l'Italie. Et il va falloir maintenant aller chercher une autre histoire. C'est l'histoire de l'Irlande quelque part, presque une finale avant la lettre, puisque si les Irlandais gagnent, ils peuvent réaliser le Grand Chelem, et si la France gagne, eh bien, ils peuvent gagner le tournoi. Et il n'y a pas de petite victoire, et c'est pour ça que les Français vont vraiment essayer de donner le maximum à Dublin.
Alors, vous avez fait le teasing, effectivement, de ce match contre les Irlandais, dans 15 jours, en Irlande. Effectivement, alors à quoi on peut s'attendre du coup? Est-ce qu'il va reconduire une équipe assez similaire? Est-ce qu'il va réintégrer Penaud et Jalibert?
Il y a toute une polémique sur justement les postes, la spécificité du poste par rapport à Jalibert, par rapport à Penaud. Je crois que Fabien Galthié, il a remis tous les joueurs sur le même niveau en évaluant leur performance. Et donc, il pense que c'est les joueurs qui sont au bon moment et au bon endroit, en pleine forme, qui vont jouer. Moi, je pense que, franchement, la charnière Dupont-Ramos contre donc, l'Italie a été quand même performance. Léo Barré a fait un excellent match, a été tranchant, a marqué donc 2 essais. Et donc finalement, ils sont sur cette dynamique de la victoire. Et ça n'empêche pas qu'ils peuvent très bien proposer à Damien Penaud d'être remplaçant et d'être un impact player qui peut rentrer contre l'Irlande et dans un match qui va être difficile. Donc je crois qu'il challenge les joueurs, il essaie de faire travailler sur une émulation saine. Malheureusement, les médias s'emparent un petit peu de tout ça, mais je crois qu'il faut faire jouer les meilleurs joueurs au meilleur moment. Et je pense que Fabien Galthié a une évaluation qui est quand même assez objective.
Il a l'air effectivement de très bien connaître son groupe. Donc, on vous l'avait dit, l'Irlande continue sa route vers le Grand Chelem pour l'instant, en s'imposant à Cardiff, logiquement, 27-18. Les Gallois sont toujours malheureusement au fond du trou.
Oui, mais quand même, l'Irlande perd à 18-10 à la 48e minute contre les Gallois. Donc, il ne faut pas penser que l'Irlande est au-dessus du lot. Hein. L'Irlande, c'est 23 joueurs comme les autres. Et finalement, c'est un rugby qui est quand même assez rigoureux. Moi, je pense que le 15 de France peut aller faire un exploit en Irlande.
Et dans le dernier match, l'Angleterre s'est imposée d'un point face aux Écossais. Encore d'un point. Ça devient une petite habitude. 16-15 à Twickenham.
Oui. Oui, et avec, je trouve, un peu de chance, parce que franchement, les Écossais n'ont pas démérité. Et il faudra bien, bien faire attention le dernier match contre l'Écosse au Stade de France, parce que les Écossais ont aussi un jeu complet.
Voilà, donc la prochaine journée, c'est le 8 et 9 mars, avec un Irlande-France, on l'a dit, à 1h15 du matin pour nous en Nouvelle-Calédonie, pour quasiment l'attribution du titre de ce tournoi Destination.
Oui, ça va être un gros défi physique qui va se jouer tout d'abord avec les lignes avant et ensuite on espère que la France va avoir des ballons pour pouvoir pratiquer un jeu de mouvement et battre les Irlandais.
Bon, eh bien on va suivre ça avec beaucoup d'intention d'ici une quinzaine de jours. On va passer au cyclisme avec vous, Ricardo Baroni, et pour présenter la saison de cyclisme alors qui a déjà commencé. Pas encore tout à fait sur le World Tour, mais en tout cas, il y a déjà eu des tours, le Tour de l'Algarve, le Tour d'Andalousie, il y en a eu d'autres, vous allez nous en parler. L'idée, c'est de faire un tour d'horizon du plateau 2025 et de voir quels sont les favoris pour les grands tours et puis les classiques à venir avec Paris-Nice, Tirreno-Adriatico et Milan-San Remo, par exemple.
Je vais commencer par ce qui est actuel, par exemple le Tour d'Andalousie, où c'est un Français qui a gagné au classement général, Pavel Sivakov. Donc ça fait plaisir de voir un Français qui gagne une course par étapes. Ça fait quand même un petit moment qu'on n'avait plus un Français aux avant-postes pour gagner ce genre de course. Après, il y a eu le Tour d'Algrave. Le Tour d'Algrave où c'est...
Jonas Vingegaard.
Qui gagne au classement général en gagnant la dernière étape devant son équipier Wout van Aert, qui lui se prépare tranquillement pour les classiques belges qui vont bientôt arriver. Après, il y a eu le Tour des Émirats, arabes, avec la victoire de Tadej Pogacar. Il a gagné deux étapes, dont la dernière, qui est une arrivée au bout de 10 kilomètres. Il est arrivé tout seul, il a fait une très belle course. Et il reste Classique du Var, qui est une course assez particulière, puisque c'est une course un peu par étapes. Il y avait... trois courses pour faire un classement général à la fin. Les deux premières qui étaient Classique du Var et Tour des Alpes-Maritimes ont été gagnées par le même coureur, Christian Scaroni, qui est venu en Nouvelle-Calédonie en 2019 quand a eu lieu la dernière course du Tour de Calédonie International. Et la dernière étape a été gagnée au sprint par Dorion Godon. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, il va maintenant y avoir des courses World Tour, des courses par étapes, comme Paris-Nice, Tirreno-Adriatico. Alors, la différence entre Paris-Nice et Tirreno-Adriatico, au niveau des participants, il y a deux catégories. Il y a ceux qui vont essayer de viser le classement général sur Paris-Nice et sur Tirreno, tandis qu'il y a ceux qui viennent pour se préparer pour Milan-San Remo, puisque c'est la classique, la première grande classique de l'année, qui se passe donc avec une arrivée à San Remo. Le départ ne sera pas à Milan, comme le nom le dit, mais un petit peu plus en dehors de la ville pour éviter la circulation. Et donc, souvent, on a des coureurs qui ne sont pas présents sur ces deux courses par étapes, mais qui sont présents ce jour-là, qui est une course quand même assez particulière avec le Poggio dans le final. Alors, certains disent que c'est une course un peu de hasard. Moi, je dirais simplement que Eddy Merckx l'a gagné 7 fois, donc le hasard 7 fois, je pense plus que ça soit du hasard. Donc, il y a des coureurs qui, pour eux, c'est leur objectif de gagner. L'année passée, au sommet du Poggio, s'est retrouvé en compagnie Tadej Pogacar et de Van der Poel, tous les deux. Et Van der Poel a reçu la consigne d'attendre son équipier qui était sprinter. Donc, ça s'est terminé au sprint avec la victoire de l'équipier de Van der Poel, ce qui était un peu dommage. Donc après va arriver donc les classiques belges où on va avoir des coureurs comme Wout van Aert, Van der Poel et aussi des coureurs comme Tadej Pogacar qui fait certaines classiques, sauf Paris-Roubaix puisqu'il n'a pas prévu encore de faire cette année. Il y a un coureur qu'on parle là depuis tout à l'heure de certaines courses mais qu'on ne parle pas de ce coureur, c'est Remco Evenepoel, le Belge. Il a eu un accident à l'entraînement. Donc il est en préparation, mais c'est un genre de coureur qui n'a pas besoin de courir beaucoup avant d'arriver à un rendez-vous et d'être performant. Je me rappelle d'une année, Liège-Bastogne-Liège, c'était sa première course, il est arrivé tout seul, il a lâché tout le monde. Donc lui aussi, ça peut être pour les classiques belges, Tour des Flandres, tout ce genre de course, quelqu'un qui soit présent. Donc après ce genre de course arrivent les tours, Tour d'Italie qui est la première course importante par étape. Cette année, Tadej Pogacar ne fait pas le Tour d'Italie, il a prévu de faire Tour de France et la Vuelta. Il était en réflexion, Vingegaard, Jonas, pour faire comme l'année dernière avait fait Pogacar, c'est-à-dire Tour d'Italie et Tour de France, d'essayer de faire le doublé, mais en fin de compte, il ne le fait pas non plus. C'est Remco Evenepoel qui fait le doublé, Tour d'Italie et Tour de France. Donc je pense que ça va être très intéressant de voir comment ça se passe au niveau du Tour d'Italie. C'est un peu dommage qu'il manque ces têtes d'affiche de course par étapes au Tour d'Italie. Mais moi, je trouve qu'il y a des coureurs français qui ont décidé d'y aller. et ça peut être très intéressant. Vous avez un David Godu qui a fait un super début de saison en étant leader du Tour d'Oman. Vous avez un coureur que moi je suis et que je trouve très très bien. C'est un jeune coureur français qui s'appelle Paré-Peintre Valentin, puisqu'ils sont deux frères, qui a changé d'équipe, qui est allé dans une équipe belge et qu'au Tour d'Oman, il a gagné la dernière étape. Il est arrivé tout seul. Donc je regarde un peu parce que c'est un coureur qu'on n'en parlait pas tellement puisqu'il était dans une équipe française avant et donc les préparations sont pas du tout les mêmes. Donc je pense que c'est un coureur qui mérite d'être suivi sur les courses par étapes si on lui fait confiance. Il y a un autre coureur français qui a changé d'équipe, qui est allé dans l'équipe de Bahreïn et qui était avant à la Française des Jeux, c'est Lenny Martinez. Ça aussi, je pense que ça mérite d'être suivi. C'est un très jeune coureur, donc ça peut être l'avenir de la France, puisque la France attend depuis un certain temps de gagner le Tour de France et que c'est toujours intéressant de voir les Français comment ils préparent ce Tour de France qui est quand même le Tour numéro un au monde. Donc après le Tour de France, il va y avoir la Vuelta où Tadej Pogacar n'a jamais gagné la Vuelta et souhaite s'y rendre. Il faut dire sincèrement que souvent la Vuelta, c'est la course de rattrapage. Ça veut dire si on a fait un mauvais tour d'Italie, un mauvais tour de France, qu'on est tombé, une chute, malade ou ce genre de truc, ça fait qu'ils vont sur la Vuelta.
C'est après, le tour de la dernière chance.
Voilà, on va dire ça comme ça. Et arrive quelque chose quand même d'exceptionnel cette année, en fin d'année, c'est les championnats du monde au Rwanda, où certains pays n'envoient pas de coureurs, parce que financièrement, c'est difficile pour eux d'envoyer des coureurs participer aux championnats du monde au Rwanda, puisque ça demande une certaine infrastructure, une certaine organisation. Donc certains pays n'envoient que certains coureurs dans certaines catégories. Ça, je trouve un peu dommage. Maintenant que ça soit une course au Rwanda, pourquoi pas? Ça peut être quelque chose de très original. Mais c'est un peu dommage que tous les coureurs, déjà d'avance, disent qu'ils ne participeront pas. Pour une raison très simple, c'est que c'est à la charge de la fédération et que c'est pas leur équipe professionnelle qui finance le déplacement. C'est un parcours très difficile, on va dire, pour mi-grimpeurs, rouleurs. Donc il y a certains coureurs qui ont déjà annoncé que le parcours ne correspondait pas à leur profil et donc qu'ils ne se rendraient pas au championnat du monde au Rwanda.
Ok, eh bien on va noter tout ça, on est encore un peu loin, mais en tout cas on va s'intéresser rapidement au classique Paris-Nice, Tirreno-Adriatico et Milan-San Remo pour le mois de mars. Merci Riccardo Baroni, on se retrouve tout de suite après une page de pub.
RRB, la pub.
Le tout info avec Mivi.
Mivi, votre spécialiste vitrerie, miroiterie, solutions techniques, sécurité acoustique et solaire. Mivi, expert en verre depuis 1994. Mivi, le verre, c'est notre métier.
Info Facebook ou le 24 11 84.
Retrouvez votre marque You by Kotex au Salon de la Femme du 7 au 9 mars à la Maison des Artisans. Profitez d'une offre spéciale et faites tourner la roue de la chance pour gagner des surprises. Plus d'informations sur clocal.nc.
Radio Rythme Bleu, on retrouve tout de suite Olivier Ledain et ses invités. C'est la suite d'une semaine formidable.
Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Et on reprend donc le cours de cette émission avec les brèves de la semaine. On va commencer par du tennis, messieurs. Et le français Alexandre Muller qui s'est incliné en finale de l'ATP 500 de Rio au Brésil ce matin contre l'Argentin Sébastien Baez, assez sèchement 6-2, 6-3. Malgré tout, il a fait une belle semaine puisqu'il a battu Cerundolo, tête de série numéro 4, et Echeverri, tête de série numéro 8. Et la pépite montante du tennis mondial et brésilien, João Fonseca, au premier tour. Il se retrouve 41e ce soir. Mondial, c'est le meilleur classement de sa carrière. Donc un petit commentaire sur la performance d'Alexandre Muller qui intègre donc le top 50 mondial.
Mais on est à la recherche un peu d'une pépite pour remplacer les élites qu'on a eues dans le passé.
Alors cette pépite a 28 ans, hein, c'est pas un jeune premier, hein, mais
on a du mal un peu à croire que ça peut arriver demain, quoi.
Bon, et en tout cas, voilà, félicitations à lui. Dans l'autre ATP 500 de la semaine, c'est Rublev qui s'est imposé, qui avait du mal ces dernières semaines, qui s'est imposé à Doha, donc face au Britannique Draper, en étant aussi très très régulier toute la semaine. On commence à voir les gros, les 5-10 premiers vraiment très bien joués en ce moment pour les deux Masters 1000 qui vont avoir lieu en mars-avril aux États-Unis. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais on peut redire un mot. Donc, Liverpool est allé s'imposer à l'Etihad Stadium ce matin en football, 2-0. Il se rapproche un peu plus du titre. 11 points d'avance sur Arsenal, qui est deuxième. C'est presque le titre en poche, Serge De Novak.
Pour moi, c'est le parcours me semble difficile pour le suivant, pour rattraper 11 points.
Ça paraît surtout improbable que Liverpool gaspille à ce point-là. Mais bon, City vient de prouver que c'était finalement possible.
Tout est possible. Naturellement, au niveau, la moindre erreur se paye cash. Mais là, je ne pense pas que Liverpool sera rejoint.
On va continuer avec du football, mais en France, cette fois-ci, l'effet marquant de cette journée de championnat, c'est la défaite de Marseille 3-0 à Auxerre. Et pendant ce temps-là, le PSG s'est imposé ce matin à Lyon 3 buts à 2 et compte désormais 13 points d'avance sur Marseille. Un petit commentaire sur ce duel à distance entre Marseille et le PSG, qui est à peu près donc le même nombre de points qu'entre Liverpool et Arsenal. Ricardo Baroni.
Moi, je voulais simplement poser la question. Quand il y a autant d'écarts en championnat, est-ce que ça ne permet pas de mieux préparer la Champions League? Parce que pour des grandes équipes comme Liverpool et PSG, je pense que la Champions League, c'est quelque chose d'important. Et d'avoir autant d'avance au niveau du championnat, je pense que c'est quand même quelque chose de très important pour eux. Et que de laisser passer 3 points et d'être en meilleure condition physique pour faire un match aller-retour en Champions League, ça soit plus important pour eux. Quoi.
On sent aussi que ces grosses machines ne veulent pas se dérégler et que la victoire appelle la victoire. On l'a vu ce matin avec le PSG, il a très peu fait tourner finalement Luis Enrique. Il a fait 2 changements je crois par rapport à l'équipe qui a joué contre Brest cette semaine. Et je ne suis pas sûr que les 2 changements les rassuraient parce que Beraldo, c'est quand même lui qui est à l'origine des 2 buts lyonnais. En défense centrale, donc voilà, on sent quand même qu'on veut rester dans une dynamique de victoire et qu'on veut. Alors je pense qu'en plus ils ont dû se mettre un petit défi au niveau du PSG puisqu'ils sont toujours invaincus en championnat au bout de 18 journées, mais en tout cas on voit qu'ils n'ont pas envie de lâcher un match et que quelque part c'est aussi ça la culture de la Coupe d'Europe, de jamais aller lâcher, donc de s'habituer tous les week-ends à ne pas lâcher un match.
C'est la culture de la gagne, hein. Par contre sur le match Marseille-Auxerre, il y a beaucoup à dire.
Eh bien, on vous écoute.
Ben, je crois que la réaction de fin de match et ce qui en découle un petit peu des interventions des dirigeants de l'OM me paraît totalement décalée. Et je dois dire que ça ne sert pas le football et le sport en général.
Alors, peut-être pour éclairer la lanterne de nos auditeurs, vous pouvez rappeler un petit peu les faits de match et la réaction de Pablo Longoria, entre autres, qui s'adresse à une caméra en utilisant le mot corruption directement, sans embâge.
C'est grave, parce qu'il faut penser que le sport de haut niveau, naturellement, il est la vitrine pour les plus jeunes. Alors que je pense un peu aux gamins qui sont à l'école de foot et qui maintenant sont accros à un peu de télé et qu'ils entendent et qu'ils voient un petit peu ce genre de discours, ça ne m'étonne pas finalement qu'il y ait autant de dérives dans le football des jeunes et notamment à l'heure actuelle en métropole.
Bon, on suivra ça parce que je pense qu'il y aura une suite à cette affaire Pablo Longoria, si on peut l'appeler comme ça. On va terminer sur ce championnat de France en disant que Nice revient à 3 points de Marseille. Ça, c'est le fait important quand même du jour aussi. Hein. Nice-Marseille était bien installé à sa 2e place et Nice tourne très très bien depuis plusieurs semaines. Et du coup, revient à 3 points en étant 3e de ce championnat. Donc, à suivre aussi sur les prochaines journées. On va terminer ces brèves avec un petit peu de rugby. Et Toulouse et Toulon qui se sont imposés ce week-end, puisqu'il y avait aussi une journée de top 14 en championnat, tandis que le Stade français se retrouve à la dernière place, Jérôme Crapaty.
Oui. Toulouse, sans les 11 internationaux, s'impose donc 41-6 contre Bayonne. Et Toulon intègre le top 3 en s'imposant donc contre le Stade français 24-6. Et la grande performance, c'est Vannes qui a battu donc Montpellier et qui n'est plus lanterne rouge et donc qui montre que voilà, maintenant on gagne pas facilement à la Rabine et voilà, c'est de très bon augure pour Vannes, mais mon Dieu que ce top 14 est vraiment très intéressant et très disputé.
Oui, alors on va suivre aussi dans les semaines qui arrivent, mais le changement d'entraîneur qui a eu lieu il y a quelques mois maintenant au Stade français n'a pas porté ses fruits pour l'instant. Hein.
Non, ça veut pas tout dire, hein, un changement d'entraîneur, hein. C'est aussi la mobilisation des joueurs.
On sait que c'est le plus facile. Et on va terminer ces brèves avec un titre en tennis de table pour Alexis Lebrun qui a remporté le top 16 européen à Montreux en Suisse. Pour une fois, c'est lui qui a l'honneur de la victoire par rapport à son petit frère. Belle performance, puisque ce n'était pas arrivé à un joueur français, Jean-Philippe Gatien en l'occurrence, depuis 1997. Donc voilà, ça n'arrive pas tous les jours. Petit commentaire là aussi sur les deux phénomènes, les frères Lebrun en tennis de table. Serge ?
Non, pour moi, à ce niveau-là, ce n'est pas des phénomènes. Ce sont simplement des joueurs de haut niveau qui s'entraînent durement et qui récoltent un petit peu le fruit de leurs efforts. Et je dois dire que c'est vrai, vous avez parlé de Gatien, mais secrétaire à l'époque aussi à l'époque.
Encore avant, effectivement.
Alors, ils leur ont montré la voie et rien n'est impossible. Et à l'heure actuelle, sur ce qu'ils font après les Jeux, prouve que ce sont vraiment des athlètes de haut niveau.
Voilà, et on souhaiterait d'ailleurs voir un peu plus de tennis de table à la télé, parce que c'est extrêmement spectaculaire et télégénique.
Et c'est pas du ping-pong.
C'est pas du ping-pong, j'ai bien dit tennis de table. Mais si on va terminer par vos coups de cœur, Ricardo Baroni, on va commencer par vous.
Mon coup de cœur, c'est pour quelque chose qui se passe depuis plusieurs semaines en Italie, c'est l'engouement des tifosi de Ferrari pour Hamilton. Je suis vraiment impressionné qu'un pilote comme Hamilton arrive en Italie et qu'on puisse aussi avoir d'engouement et être aussi impatient de le voir courir sur une Ferrari. Moi, sincèrement, j'espère avoir le même spectacle maintenant en Formule 1 qu'on a eu droit à avoir en moto, puisque j'ai écouté la semaine dernière Clément sur votre antenne nous parler donc des prochains Grands Prix moto. Ça serait bien qu'on sorte un peu de ces conflits qui existent au niveau de la Formule 1, qui des fois fait que l'exploit sportif ou la compétition passe à côté. Donc j'espère, avec un coach Vasseur qui est français, avec son équipier, qu'on ait vraiment du spectacle en Formule 1 comme on a eu droit il y a quelques années avec des pilotes français comme Prost, etc.
Eh bien, on devrait avoir un début de réponse autour du 16 mars, si ma mémoire est bonne, avec le Grand Prix d'Australie. Serge De Novak, votre coup de cœur ?
Oh, mon coup de cœur, c'est la VAR. C'est pas une pièce de théâtre. Hein. C'est simplement le fait qu'on pensait avoir trouvé au football la solution miracle pour... disons, intervenir sur les faits d'arbitrage et qui sont toujours possibles. Et ça ne règle rien du tout. Quand on voit un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle, on se demande si on ne va pas mettre encore une commission pour, à la VAR pour essayer de trouver une solution à l'enregistrement qui est fait.
Alors, c'est plus un petit coup de canif qu'un coup de cœur, finalement.
Oui.
Jérôme Crapati, votre coup de cœur ?
Moi, mon coup de cœur, c'est cette jeune joueuse tenniswoman de 17 ans, Andreeva, qui a remporté donc le tournoi de Dubaï.
Le WTA 1000 de Dubaï, exactement.
Ouais, et assez exceptionnel, que je trouve assez formidable. Et déjà à 17 ans, elle démontre beaucoup de potentialité.
En ayant battu Iga Swiatek en quart de finale, donc un tournoi extrêmement complet pour la joueuse russe. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi sur cette émission. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle semaine formidable.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu.